Cours de philosophie du vivant, réponse aux questions, par le père Philippe à Saint-Gedard, le 14 décembre 1988.
Que découvre-t-on en premier lieu, l'âme comme cause efficiente ou l'âme comme cause formelle?
C'est intéressant ça, pour toujours comprendre un peu que, au plan philosophique, l'ordre des causalités n'est pas découvert toujours de la même façon. Et donc il faut toujours se poser la question. On découvre un principe, et ce principe peut être ou une cause selon la forme, la substance. La substance est découverte comme un principe, une cause selon la forme, ou selon la cause efficiente. Ou selon la cause finale. En éthique, quand je découvre l'ami, le bien, je le découvre comme principe, comme fin, comme principe selon la fin. Eh bien, en philosophie du vivant, quand je découvre par l'induction l'âme, je découvre l'âme comme principe selon la cause efficiente. Et vous comprenez pourquoi. C'est à partir des opérations et l'ordre des opérations et l'unité qui existe fondamentalement dans ces opérations que je pose l'âme. Ensuite, en réfléchissant, je vois que ce principe efficient est immanent et il est cause formelle. Et c'est comme ça qu'il peut être substance. Donc je découvre l'âme comme cause efficiente, radicale, fondamentale. Ça va ? Dites, hein, s'il y a des questions, vous les posez tout de suite ici. Hein. Si vous n'êtes pas, vous voyez pas clair, vous le dites. Alors, on donnera une lumière supérieure. Vous voyez, l'induction nous fait découvrir un principe. Ce principe, ou une cause, il est ou selon la forme, selon la matière, selon l'efficience, selon la fin. Les quatre causalités sont découvertes en premier lieu dans l'analyse de l'œuvre d'art. C'est l'œuvre d'art qui me fait découvrir les quatre. Ça, c'est très important de savoir que c'est là. Or, dans l'œuvre d'art, vous distinguez tout de suite, cette statue est-elle en bois, en cuivre? Tout le monde peut comprendre ça. Cause formelle, c'est une statue. En cuivre, la matière. Qu'est-ce qu'il a fait, l'artiste? C'est signé. Car regardez, il a signé la signature. La signature, c'est la cause efficiente. C'est pas la cause formelle. C'est pas la cause matérielle. La cause efficiente peut signer. Ah, ça c'est tout un programme. Elle peut signer la cause efficiente. Elle peut mettre un cachet. Ça sort de cet atelier. Donc, cause efficiente. Cause finale, en vue de quoi? Pourquoi c'est fait? C'est fait pour que les personnes puissent prier davantage. C'est une icône, c'est une statue. Pour manifester une présence, en vue de quoi? Sur le modèle de quoi? Ah, j'ai déjà vu ça. Ah oui, est-ce que c'est l'original ou c'est une copie? Et tout de suite, vous posez la question. Quand vous êtes devant un très beau tableau, est-ce que c'est l'original ou est-ce que c'est une copie? Pas toujours commode à déceler. Quand vous êtes en face d'une statue, ah, il me semble bien que c'est l'original. Vous dire, mais non, on voit tout de suite. Ça sort de l'école, ça. L'école, c'est ça. Regardez. Là, il y a un premier, puis il y a une série. Alors, les autres causalités, la découverte de l'autre qualité se prend en fonction de cette première. Toujours, il faut tout le temps se rappeler que c'est l'analyse de l'œuvre d'art qui m'a permis de découvrir les causalités. Les causalités, ça ne tombe pas du ciel, c'est l'intelligence qui les découvre en analysant. C'est le fruit d'une analyse, donc d'une induction. Après, on va corser le problème. Allez.
Pouvez-vous préciser l'unité saisie dans les diverses opérations vitales qui permet de poser une cause ? Dire que c'est toujours le même vivant qui pense, qui mange, etc. suffit-il ?
Ça dépend pour les personnes. Oui, parce que vous pouvez avoir une personne malade. Alors justement, la schizophrénie fait que c'est plus une voix. Le matin, je me réveille. Oh, est-ce que c'était bien moi qui était là hier au soir? Vous voyez? Et puis, en plein midi, mais est-ce que c'est moi ce matin qui ai pris mon petit déjeuner? Est-ce que c'est pas mon frère qui l'a pris? Moi, j'ai l'impression. Et maintenant, je pense, mais est-ce que c'est moi qui pense? Vous voyez? Alors, il peut y avoir une petite maladie qui fait qu'il y a des. Comme des divisions. On n'a plus le sens suffisant de l'unité. Alors, comment lutter contre cela? C'est d'être très présent à chacune de ces opérations. Méthode vitose, appliquée de façon très souple. Quand je pense, c'est moi qui pense. Je ne mets pas ça en doute. Je suis tout présent dans ma pensée. C'est bien moi. Quand je mange, eh bien, je peux manger, évidemment, à la manière des soldats de Gédéon. On lape l'eau, pas le petit déjeuner, voyez, on lape le lait, puisque c'est le... Allez vite, et puis on s'en va, à toute vitesse. Alors, je comprends que ça, on peut oublier, on n'est pas très présent. Mais si vous vous installez, bien, monsieur, bien installé, vous lapez là pas l'eau, vous lapez pas le lait, vous êtes très installé, c'est bien vous. Vous êtes assis, vous mangez, vous goûtez, c'est bon, c'est extraordinaire, super. Jour de fête aujourd'hui, on le voit bien, la liturgie du petit déjeuner. C'est... Oui, c'est bien vous, vous êtes très présent. Oui, c'est la présence dans l'acte qui fait l'unité. Parce que vous pouvez très bien les choses machinales que vous faites. Vous dégringolez l'escalier. Est-ce que vous êtes présent quand vous dégringolez l'escalier? Pas du tout. Pensez à autre chose. Ou vous récitez votre chapelet, ou vous pensez au cours qui va arriver, ou vous pensez à la dernière chose que, la dernière remarque qu'on vous a fait, juste avant de descendre l'escalier. Oui, comme les gens qui font tous les jours le même trajet, au bout d'un certain temps, ils ne s'en aperçoivent même pas. Ils le font machinalement. Alors quand on fait machinalement un acte humain, c'est plus un acte humain. Moi, je parle des actes humains. C'est plus un acte humain. Alors à ce moment-là, ça ne fait plus partie de l'unité, il n'y a plus d'unité du tout. Les fustacs là, à toute vitesse. Et c'est un danger de notre monde d'aujourd'hui, hein, de ne pas être assez présent à tout ce qu'on fait. Et c'est très important d'être présent à ce qu'on fait. Parce qu'alors à ce moment-là, on voit bien, c'est nous qui sommes engagés. Tandis que si vous n'êtes pas présent, au bout d'un certain temps, vous vous videz vous-même. Et vous avez même plus ce que vous avez fait. Mais on fait machinalement. On laisse ses clés sur la serrure. On n'y a pas pensé. On entre dedans. Elles ne sont pas à l'intérieur, elles sont à l'extérieur. On ne les voit plus. Où est-ce que je les ai mis? Puis je cherche un quart d'heure. Ah, mais oui, c'est resté à l'extérieur. Oui. Vous n'avez pas été présent. Bon, alors continuez.
Qu'est-ce qui prouve qu'il y a une source unique et non pas des puissances séparées les unes des autres, correspondant à chaque opération vitale?
Il n'y aurait plus d'unité, il n'y aurait plus que diversité. Qu'est-ce qui ferait l'unité? Alors, comprenons bien, cette unité, c'est l'immanence du vivant. Je peux être présent quand j'ai très froid aux pieds. J'ai conscience d'avoir froid aux pieds. Et je suis présent dans mes doigts de pied, parce que j'ai froid. Ou bien quand vous avez une brûlure trop forte, vous voyez, on est présent là. quand tout va bien, vous ne pensez pas que vous avez 10 doigts de pied? Moi, j'y pense pas beaucoup. Est-ce que vous êtes présent? Si on vous marche sur un petit doigt de pied, ah, tout de suite, je suis présent. Oui, la souffrance vous rend présent. Le froid vous rend présent. Ça, c'est l'expérience que nous faisons tout le temps. Vous voyez, l'immanence du vivant fait que vous ne pouvez pas regarder l'extériorité de la machine. Une machine n'a pas besoin d'armes. Il y a des pièces différentes qui sont liées. Et Descartes pensait notre vie végétative à la lumière d'une machine. C'est vieux ça, hein? Si j'étais cartésien, tu vois, c'est pour ça que Descartes ne pose pas d'âme au sens fort. Il pose une âme pensante, qui est une substance pensante, qui n'informe pas le corps. C'est un peu comme Platon. Puis il y a le corps organique, mécanique. Alors évidemment, le corps mécanique, c'est juxtaposé. Tandis qu'au contraire, le vivant répugne à la juxtaposition. Il y a une immanence. Et vous voyez, c'est un signe de santé quand on est très présent à tout ce qu'on fait. Quand on commence à ne plus être présent, alors c'est ou un signe de fatigue, ou un signe de gagatisme. Ça peut arriver, hein. Vieillesse précoce. Mais on a tellement, tellement été fatigué du noviciat que à la fin du noviciat, c'est déjà un petit vieux. Ça existe. Pas pour des tout jeunes, mais pour ceux qui sont fatigués. Alors, juxtaposition, on n'a plus l'immanence. Le vivant vit dans une très grande immanence. Et plus il est vivant, plus l'immanence est forte. Donc l'homme, qui est le vivant le plus parfait que je peux expérimenter, a une très grande immanence. Surtout quand il est en pleine vie. Quand il commence à être fatigué le soir, vous voyez, c'est comme un vieux père, une fois, je me souviens, il était normand. Alors il commençait à être fatigué, alors il commençait à mettre ses pieds sur son lit, premier moment. Petit à petit, il se glissait dans son lit. C'était pas du tout l'immanence du vivant, c'était la fatigue. Là, tout vient comme ça, ça glissait. Quand on avait une permission à lui demander, comme il était professeur, permission à lui demander pour pas assister à son cours le lendemain, on avait l'heure où les pieds commençaient à être sur le lit. Alors, on lui demandait, et il accordait toutes les permissions. Parce qu'il n'avait plus la force de dire non. Continuez. Je vous donne ces exemples pour que vous compreniez bien ce que c'est que d'être présent à ces actes. Quand vous dites non, vous n'êtes plus présent. Ça, c'est sûr. Ça veut dire, va, fais comme tu veux. Non. Allez. Oui.
Dans les activités, les activités vitales, il y a des choses qui sont inconscientes.
Oui, oui, le fricaré barbame, comme disaient les anciens. Le fricaré barbame, tu vois. On se frotte la barbe. C'est un acte d'homme et pas un acte humain. Parce que vous n'êtes pas très présent. Vous n'êtes pas très présent. Mais il n'y a pas que celui-là, il y a des tics. Tous les tics, on n'est pas présent. On fait ça comme ça. Les gens qui prennent de la prise, et là encore, vous n'avez pas vu, c'est très amusant pour ça. C'est plus des actes humains, c'est des actes d'hommes. Alors je ne prends pas ces actes-là. Le petit déjeuner est un acte humain. Mais si on ne faisait que la paix, le lait, alors ce serait peut-être un acte d'homme. Ce ne serait plus un acte humain. J'ai pris les actes humains, on est présent à ces actes-là. on est conscient du posé. Continue alors. Reprenez peut-être pour qu'on voit bien l'ensemble.
Qu'est-ce qui prouve qu'il y a une source unique et non pas des puissances séparées les unes des autres, correspondant à chaque opération vitale?
Voilà. Si c'était mécanique, ce serait très juste. Et on n'affaire pas une âme. On affaire une unité extrinsèque. Celui qui l'a inventé. Il a inventé cette machine. Et la machine n'a pas d'immanence. Je dis, prenez des cartes. Ça fait très bien comprendre ça. Après.
Car toutes les opérations ne sont pas liées de façon telle que si on n'exerce plus une d'entre elles, on ne peut plus en exercer aucune. On peut vivre sans voir ou sans entendre.
Oui, mais il y en aura toujours au moins deux. On verra, on touchera, on mangera, on va boire, il y en aura toujours quelques-unes. Vous voyez, je ne crois pas qu'un vivant, comme vivant, puisse avoir une seule opération vitale. Tous les vivants ont le toucher. Beaucoup de vivants ont le toucher et à notre sens. Le vivant normal, homme, en a cinq. Cinq fenêtres. Il n'y a jamais qu'une seule. Et il pense, il voit. Prenez, il imagine, il marche, ou il se laisse porter. Bon. Et puis vous voyez, ça c'est des cas extrêmes. Je ne fais jamais ma philosophie, ça, souvenez-vous ça, par les cas extrêmes, qui sont très difficiles. Très difficiles. Je fais la philosophie de moi-même, avec toutes mes activités. Je sais qu'il y aura des gens handicapés. Je sais. Ces gens handicapés, mais j'essaierai de comprendre, de m'approcher d'eux, d'avoir contact avec eux. Vous voyez, c'est ce qu'a fait Freud hein, au début. Il ne faut jamais l'oublier. Si on critique Freud comme philosophe, il faut bien remarquer comme thérapeute, il a été très grand. Parce que de son temps, il y avait que la psychiatrie et tous les malades, on les traitait un peu comme des brutes. Et quand Freud à Sainte-Anne a été soigné, il s'est trouvé devant certains malades qui prononçaient telle ou telle parole, mais un vocabulaire très restreint. Et Freud a eu la pensée de noter le langage de l'autre, du malade. Et le lendemain, quand il vient voir ce malade, il prend son langage pour essayer d'entrer en contact avec lui. C'est pas bête, ça. Et on fait ça instinctivement avec les enfants. Et quand j'ai eu des dialogues avec les psychanalystes freudiens, ils me disaient toujours, le métier de psychanalyste, c'est d'être scaphandrier. On descend dans les eaux profondes pour rejoindre quelqu'un qui est moribond, psychologiquement, et essayer de le tirer de là. Oui, mais je ne vais pas demander à un malade de faire la philosophie du vivant. Je demande à un homme bien portant. Il faut être minimum bien portant pour faire de la philosophie. C'est pour ça que les anciens trouvaient qu'il faut d'abord vivre, puis on fait de la philosophie. Primum vivere, secondo philosophare. Il faut en second lieu philosopher, mais d'abord vivre. Alors je ne ferai pas la philosophie du vivant à partir d'un handicapé. Parce que c'est tellement difficile. Ce sont des cas extrêmes. Mais par miséricorde, j'aime les handicapés. Et je me pencherai auprès d'eux. Alors, vous continuez. C'était la question. Bon, la question. Donc, vous voyez, l'unité provient de l'intensité de présence que vous avez dans tous vos actes. Qui n'est pas une présence extrinsèque à vos actes. C'est une présence qui est immanente à vos actes. Et ça, c'est le propre du vivant. Le vivant qui opère un acte vital est présent d'une manière immanente à son acte. Donc l'unité fait partie essentielle de son acte. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute de l'extérieur. comme dans une espèce de jeu mécanique. Alors, troisième question.
Est-ce que c'est la distinction intériorité-extériorité qui nous permet d'induire l'âme, ou bien cette distinction n'est-elle posée que pour nous aider à faire l'induction?
Vous comprenez qu'intériorité et extériorité caractérisent deux expériences. J'ai l'expérience de toucher quelque chose qui m'est extérieur. Ça, c'est sûr. Cette table ne fait pas partie de mon corps. Tandis que si j'ai mal à l'estomac, je touche quelque chose qui est intérieur. J'ai mal aux dents. Je touche quelque chose qui est intérieur. J'aime. Ça vient de moi. Je pense. J'imagine. J'ai rêvé. Tout ça, c'est des actes intérieurs. Donc, à partir de ces deux expériences, je peux tout de suite parler qu'il y a en moi une extériorité pour les contacts avec l'univers et une intériorité qui s'enrichit progressivement. La conscience de toucher quelque chose d'extérieur à moi, la conscience de vivre dans une certaine intériorité, plus ou moins grande, plus ou moins profonde, mais une intériorité. Donc, ça, c'est une constatation que je peux faire. Et cette constatation me permet de mieux comprendre comment il y a nécessairement en moi deux sources, ou plus exactement, deux aspects par lesquels la vie se manifeste. Vous voyez, donc, intériorité, extériorité, c'est une conséquence de la constatation de mes expériences. Mais le point de vue de l'âme et du corps est saisi à travers une induction. Donc c'est différent. L'intériorité et l'extériorité n'est pas la distinction de l'âme et du corps, mais c'est quelque chose qui est comme un signal qui m'oblige.
Suite de la question. L'intériorité et l'extériorité ne sont-elles pas qu'une manifestation des effets de l'âme?
De l'âme et du corps. Ce n'est pas la manifestation de mon âme de toucher ce corps extérieur, c'est parce que j'ai un corps. Vous voyez? Donc c'est de l'âme et du corps, c'est les deux principes, la dualité des principes. Du fait même que je suis capable de réfléchir, de méditer, du fait même que je suis capable de toucher, de marcher sur les doigts de pied de mon voisin, pas méchamment, mais pour le réveiller, mais ça prouve que j'ai un corps. Le corps me fait comprendre l'extériorité et mon âme l'intériorité. Donc, c'est une voie d'accès à bien comprendre cette distinction extériorité-intériorité. Et l'extériorité, je pourrais l'analyser en disant que c'est un phénomène de la quantité. C'est la quantité qui amène l'extériorité. Et la qualité est source d'intériorité. Ça, c'est sûr. Plus un être est qualifié, qualitatif, plus il est intérieur, plus un être est quantitatif, plus il est dans l'extériorité. Donc, ceci manifeste qu'il y a un point de principe. Vous voyez ? Donc, pose le problème. Qu'est-ce que c'est que ces deux principes ?
Question.
Il y a une question là-bas, oui, oui.
Quand je pose un arbre sans être vraiment présent à cet arbre, est-ce que je peux
Est-ce que vous pouvez donner un exemple ?
Je suis calé par la barbe.
Quoi ?
Quand je me gratte la barbe.
Oui, si, oui, fricaré par la barbe.
Fricaré par la barbe. Est-ce que je peux affirmer que mon âme n'est pas présente à cette âme ? Et qu'en fait, cette âme n'est que le fruit de mon conditionnement matériel ?
Oui, oui, oui. Et là, c'est actif. Mon âme n'est
pas présente.
Venez, faisons attention, elle n'est pas consciemment présente.
Ah, mais au-delà de la conscience, est-ce que je peux dire que c'est uniquement...
Ah non, non, puisque même l'instinct est commandé par l'âme. Par l'âme instinctive. Venez, mon âme est un principe indivisible. Donc, il est présent à toutes les parties de mon corps. Même un acte instinctif. Mais mon âme n'est présente là que végétativement. Vous voyez ? Alors ce sera tout le point de vue des nerfs, le point de vue des réflexes instinctifs. Et les réflexes instinctifs appartiennent à mon âme végétative. C'est mon âme végétative. Donc ce n'est pas un principe humain, ce n'est pas un acte humain, c'est un acte d'homme, parce que la vie végétative appartient à l'homme. Vous voyez ? C'est pas un acte conscient, donc c'est pas votre âme consciente, donc votre âme spirituelle, volontaire, qui est présente. Votre âme volontaire est absente. Alors qu'elle pourrait être présente.
Donc au fond, immanence est nécessaire pour maintenir un principe qui soit spirituel, une âme spirituelle, mais est-ce qu'elle est nécessaire ?
Ah, l'aspect passionnel aussi. Je peux, dans un accès de colère, me tirer la barbe, n'est-ce pas, et m'arracher la barbe, et ça m'aidera de calmer ma colère. Hein, ceci. Dans un accès de colère. Se tirer les cheveux, moi. C'est pour ça qu'on les coupe très, très court pour qu'on ne les arrache pas. C'est plus difficile quand c'est pas trop long. On voit ça, enfin. Il s'arrache les vêtements par douleur, il se tira ses cheveux par douleur, il se roula par terre par douleur. Venez, c'est la passion liée à l'instinct. C'est pas très raisonnable. Alors c'est peut-être accepté comme coutume. Il est bon pour manifester sa douleur de s'arracher ses vêtements. Il est bon pour manifester sa douleur de laisser passer ses passions. Parce qu'autrement, vous avez l'air d'être froid. Ah, celui-là, il a maintenu sa douleur de façon stoïque. Il n'a pas blémi, c'est exactement le même. Ça, c'est le stoïcien. Oui. Je crois que les degrés de présence, vous voyez, c'est vrai que c'est intéressant. Les degrés de présence. L'âme végétative est présente à mon corps comme un principe de vie. Principe substantiel de vie. C'est un principe substantiel de vie indivisible. Donc il est présent à tout mon corps. Mon âme est présente au bout de mon petit doigt. Ça, c'est sûr. Présente au bout de mes cheveux, si je tire dessus, on aperçoit. Mon âme passionnelle est présente quand je suis en colère et que, de fait, que je fais un effort. Mon âme spirituelle n'est pas toujours présente à tout mon corps. Oui.
Et que se passe-t-il quand, je ne sais pas si c'est un cas extrême, quand une personne est mutilée et si l'âme informe le corps et à travers tout le corps, est-ce que l'âme est touchée ?
Oui. L'âme est subtile, hein. Vous coupez le doigt. Est-ce que votre âme est coupée ? Non. La coupure est quantitative. Ah, je ne veux pas dire, l'âme, vous voyez, comme un air, elle s'en va, non, pas du tout. C'est que votre doigt coupé, le bout de votre doigt coupé, ne sera plus vivant. On essaiera de le recoller. De temps en temps, ça marchera. Et puis de temps en temps, ça ne marchera pas. Alors, si on touche des organes essentiels à la vie, vous mourrez.
Mais l'âme n'a pas un organe spécifique.
Non. ça c'est Descartes. Hein? L'âme est présente dans un organe, dans le cerveau, à tel endroit, au cœur. Je vous ai raconté cet exemple que j'ai vu dans une revue mi-scientifique, mi-propagande. Donc je ne peux pas affirmer que c'est absolument sûr. L'expérience faite en Russie entre Azor et Médor. On coupe la tête d'Azor et on la met sur Médor en lui coupant la tête. Et vous recouvrez le mieux possible, le vite possible. Puis vous dites Médor. Lequel répond ? Mais c'est pour répondre à cette question. Lequel répond ? Celui qui a la tête de Médor ou celui qui a le cœur de Médor ? Ce qui aurait été très drôle, c'est que un répond tout. Le don, c'est qu'il un puisse répondre, voyez, Médor, la tête, et puis que celui qui a le cœur de Médor réponde encore Médor. C'est pas arrivé là. On mettait que c'était le cœur de Médor qui avait répondu Médor. Alors on disait que c'était le cœur. Gardez le nom. Pas que non. Le cœur profond de Médor. Mais, alors, ça peut être une boutade, mais c'est très intéressant. Très intéressant. Est-ce que l'âme est liée à un organe particulier ? C'est votre question. C'est la question de Descartes. C'est la question d'Aristote. Est-ce que l'âme est liée à un organe particulier ? Est-elle liée au cerveau ? C'est évident que quand on vous coupe la tête, ordinairement on dit que vous êtes mort. C'est-à-dire que la séparation de l'âme et du corps. Mais alors l'âme a-t-elle sorti par la tête ou par le cœur ? Porte de sortie. Ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de porte de sortie. Parce que l'âme est immatérielle. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un organe particulier privilégié. Je crois que l'âme est présente au corps, mais qu'il y a des organes absolument essentiels qui fait que si on les touche, le vivant meurt. C'est ça l'expérience, hein ? Beaucoup plus qu'autre chose. Oui, après...
C'est une autre question.
Oui, oui. Attendez.
Je vais vous demander, est-ce que le point de vue des anciens qui disaient en fait l'âme, donc le sang est porteur de l'âme, vient aussi de cette recherche en fait d'où est-ce que l'âme est liée à un organe et le fait qu'il ne puisse pas se désigner, qu'ils disent en fait comme le sang est répandu partout le corps. C'est elle seule qui peut être porteuse
de l'âme. Vous voyez, c'est au fond une conception toujours un peu matérialiste de l'âme. Comme l'âme est source, cause, elle est indivisible. Et l'âme humaine, elle est immatérielle. Oui. Alors, elle anime un corps, et par le corps, elle est présente dans tout le corps. Mais je ne touche pas l'âme en touchant mon doigt. Je touche mon doigt. Mais je sais que ce doigt appartient à un vivant. Et donc que ce doigt est animé par l'âme. Et donc indirectement, je touche l'âme. Vous voyez ? Il y a une présence de l'âme dans toutes les parties du corps.
En tant que croyant, en tant que chrétien, est-ce que je suis obligé de poser le principe d'existence de l'âme ? Est-ce que je ne peux pas dire « Dieu peut me recréer, même si mon âme meurt après avec mon corps ?»
Vous comprenez ce point de vue-là ? Pourquoi recréer l'âme si elle meurt ? créé l'âme de tous les animaux. C'est une hypothèse que vous faites, hein? Parce que vous n'avez aucune expérience de ça. Venez. Bon, une hypothèse. Chérie, cette hypothèse, quel lien y aurait-il entre l'homme, âme et corps sur la terre, et puis la nouvelle âme? Aucun lien. Donc il n'y aurait pas de continuité. Et par le fait même, l'homme serait détruit par la mort. Il y aurait une promesse de résurrection, de recréation, mais pas plus.
Mais Dieu ne peut pas reconstituer exactement pareil ce qu'il a fait la première fois.
Reconstituer une âme,
oui.
Ou un corps et une âme.
Un corps et une âme.
La résurrection. Ce qu'on dit à la résurrection. Oui, mais la résurrection dit que c'est l'âme qui va former le corps nouveau. Oui. C'est une recréation d'une certaine manière, mais à partir de l'âme. Vous voyez ?
Par quel critère peut-on dire que notre âme est immatérielle alors que l'âme de l'animal est matérielle ?
Par quel critère peut-on dire que l'âme de l'animal est matérielle, est immatérielle, tandis que l'âme de l'animal est matérielle ?
À cause de la conscience. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne peut faire la philosophie du vivant que du vivant. Je ne peux pas faire celle de l'animal. Vous voyez ? Alors vous pouvez dire, oh, mais peut-être que l'âme de l'animal est immortelle. On ne le sait pas ici. On le verra au ciel. Donc faites appel à autre chose. C'est plus de la philosophie. Vous voyez ? Se demander est-ce qu'il serait possible, c'est la question que beaucoup de personnes se posent, tous ceux qui sont très franciscains, vous voyez, qui aiment beaucoup les chiens, qui aiment beaucoup les loups, qui aiment beaucoup les animaux. C'est impossible que les animaux disparaissent. Ils sont si fidèles. La fidélité du chien, c'est impossible. Donc il peut y avoir un ciel des animaux. Un zoo, ciel. Je n'en sais rien. Prenez. Alors, au point de vue chrétien, je peux dire que ce n'est pas la tradition. Voilà. Je peux dire que ce n'est pas la tradition. Aucun père de l'Église ne parle d'un zoo chien. Il y a bien des cimetières de chiens, mais il n'y a pas de ciel de chien. Je crois pas. Mais la tradition, non. Après.
On découvre l'âme comme principe d'unité de vie. Mais cela n'explique pas la diversité des opérations vitales. Et pour cela, on pose les dunamis, les puissances.
Bon,
pourquoi en philosophie première, alors qu'en philosophie première, la substance qui est source des différentes catégories, on n'a pas besoin de poser de principes intermédiaires.
Vous voyez bien la différence, hein ? C'est très joli, ça. Et c'est très bien parce que ça fait comprendre la différence de l'induction au niveau de l'être et l'induction au niveau du vivant. Je pars des 9 catégories, ou des 10 catégories, je peux dire, des 10 catégories pour poser une substance, une osia. Des 10 catégories. Et entre cette substance osia source et la relation, pas la relation, parce que justement, ça ne joue pas. La quantité, la qualité, intelligence, c'est immédiat. Pas d'intermédiaire. De temps en temps, il y a un intermédiaire. Quand je parle de l'habitus, il y a un intermédiaire. Puisque l'habitus est qualité de la qualité. Quand je parle de la relation, il y a un intermédiaire, il y a un fondement. Quand je parle de la passion, d'une certaine manière, il y a un intermédiaire. Donc vous voyez, même là, il y a des intermédiaires de temps en temps. Tout dépend de la, du caractère propre de cette détermination par rapport à cette source qu'Elousia. Donc je précise, quelquefois c'est immédiat. De l'ousia, la catégorie substance seconde, c'est immédiat. La catégorie substance première, qui n'est pas une catégorie, qui est au-delà des catégories, c'est immédiat. La catégorie intelligence, c'est immédiat. La catégorie quantité, c'est par l'intermédiaire du corps. Donc, de la substance, le corps, substance, co-substance, par rapport à l'âme, et ainsi de suite. Quand il s'agit de l'âme, je prends la pensée, cogito, pour être proche de Descartes, cogito, j'aime, je mange, c'est suffisant, je suis en colère. Et j'ai affaire de là l'âme, donc une source de vie. Et je dis source radicale de vie. Je ne dis jamais pour la substance que la substance est source radicale de toutes les déterminations. Je dis qu'elle est source des déterminations. Tandis que je dis que l'âme est source radicale. Et quand je dis source radicale, je veux dire qu'il y a donc un intermédiaire entre l'âme et le cogito, je pose la puissance, on ne l'a pas encore vu, mais on le verra, la puissance intellectuelle. Et je sais, pour préciser par rapport à Sainte Thérèse, elle le sait maintenant dans le ciel, qu'entre l'intelligence et l'esprit, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que l'intelligence est une puissance, l'esprit c'est l'âme spirituelle. C'est pas l'intelligence, l'esprit, c'est l'âme spirituelle. Vous voyez, l'âme peut être l'âme immatérielle, et l'âme spirituelle, c'est l'esprit. Donc c'est l'âme en tant qu'elle immerge par rapport à la matière, par rapport au corps. Tandis que l'intelligence est une, en grec on dit une dynamis. Elle est une puissance. Elle est une capacité d'opérer. Pour aimer aussi, je mets une autre puissance spirituelle, la volonté. Je suis en colère, je mets aussi une puissance. Ce sont la faculté d'irascible, la puissance d'irascible. L'irascible, c'est ma capacité de me mettre en colère. Hein? C'est une puissance, dynamis. Je mange, mais je mettrai aussi, là aussi, une puissance végétative. Cette capacité que j'ai d'assimiler. Alors pourquoi, quand il s'agit de l'âme, source radicale de vie, quand il s'agit de la substance, source de toutes les déterminations? Voilà comment se pose le problème. Oui, c'est assez astucieux. Qu'est-ce qui pourrait répondre? Même vous. C'est une constatation, ça. Et c'est intéressant parce que ça montre le caractère très différent, vous voyez, de l'induction. L'induction de la substance est plus immédiate. L'induction de l'âme, j'insiste énormément sur le fait qu'il y a l'unité de toutes ces opérations. La diversité ne conduirait pas à l'âme.
ce n'est pas possible que, à cause que dans les dix catégories, il y en a une qui porte les autres. Et donc, à cause de cela, il y a un lien direct avec...
Oui. Est-ce que... C'est bien, c'est pas tout à fait ça. Ça brûle. Mais c'est pas tout à fait ça. J'ai dit tout à l'heure que chacune des inductions conduisait à telle ou telle causalité. La causalité de Lousia, principe selon la forme. L'âme, principe selon la cause efficiente. La forme, pour être forme, n'a absolument aucun intermédiaire. Alors, les déterminations peuvent provenir de Lousia, mais selon la forme, donc, il y a un caractère beaucoup plus immédiat. L'âme, principe, vital, selon la cause efficiente. La cause efficiente peut impliquer diverses causalités efficientes, ordonnées. Or, et ceci grâce à l'immanence, vous voyez, l'âme est principe immanent des opérations. Alors, en tant que principe immanent de toutes ces opérations, dans cette immanence, je peux voir des degrés différents. Et l'immanence réclame un principe immédiat. Et donc, comme l'âme